Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
RFI Soir, François Bernard.
Alors sur RFI, la politique est un sujet quotidien. Le dimanche, on écoute les déclarations des politiciens. On invite un politologue, c'est Dimanche Politique. Namori Dosso a écouté ce qui s'est dit sur les radios, les télés. Nous allons observer l'évolution de la situation avec le politologue en question. C'est Stuart Shaw qui nous a rejoint dans le studio de RFI. Bonsoir Stuart Shaw.
Bonsoir à tous.
Vous êtes consultant au cabinet d'études et de sondages Via Voice. Alors, cette semaine a été marquée par des crises internes dans les partis dont les résultats aux européennes ont été bien en deçà des espoirs et des efforts de la campagne, particulièrement concernés les Républicains, dont le président Laurent Wauquiez a démissionné, et la France Insoumise qui enregistre le départ de Charlotte Girard, l'une des stratèges du parti. Alors, Laurent Wauquiez quitte la tête de son parti, les Républicains. Stuart Shaw, est-ce qu'on peut s'attendre à une décision similaire de la part du patron de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon ?
Écoutez, je pense qu'il faut analyser tout ça avec prudence, mais je pense qu'il y a un point de convergence dans les mouvements des deux partis. C'est la difficulté qu'ont ces partis aujourd'hui à définir ce que nous on appelle chez Via Voice les termes du conflit propre à la gauche et à la droite. Pour revenir à la situation de Laurent Wauquiez, la droite aujourd'hui a beaucoup de mal à définir ces termes du conflit sur des enjeux qui pourtant leur sont propres, l'identité, l'immigration. Et il semble que la manière dont ils formulent aujourd'hui ces enjeux-là ne fait plus sens pour l'électorat de droite. Je pense du coup que cette fragilisation de l'électorat de droite, il est réel. Je lisais un sondage d'un de nos confrères dans le JDD, 57% des sympathisants Les Républicains souhaitent évidemment que Les Républicains restent un parti autonome. 31% de ces mêmes sympathisants estiment que Les Républicains devraient s'allier avec le parti de la majorité actuelle, signe que ce socle électoral est quand même très, très fragilisé.
Et en ce qui concerne la France Insoumise, alors est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit se passer d'une personnalité qui est son incarnation, Jean-Luc Mélenchon ?
Alors c'est très compliqué, effectivement, la France Insoumise est très liée, comme En Marche d'ailleurs, à son leader. Ce qui est assez intéressant, c'est que les mouvements sont à peu près similaires, c'est-à-dire que lorsque on a le chef qui vacille, tout vacille, et maintenant les lieutenants se mettent en ordre de marche pour essayer de comprendre est-ce que oui ou non on va devoir faire sans. La question, je pense, est beaucoup plus profonde. Je le redis encore une fois, mais c'est vraiment la formulation de l'offre politique qui ne fait plus sens, surtout pour le socle électoral à la fois de la France Insoumise et aussi de la droite, qui posera problème pour les prochaines échéances électorales.
Alors, on va revenir tout au long de cette émission. La parole tout de suite à Namori Dosso, qui a passé la journée à guetter la parole politique. Quels étaient les messages aujourd'hui, Namori ?
Et sans surprise, François, les élus de droite se sont livrés à une multitude de critiques les uns envers les autres, qu'avait dans le rôle de sniper l'eurodéputée LR Nadine Morano. Invitée sur Europe 1, elle a livré le fond de sa pensée en ce qui concerne le départ de Valérie Pécresse.
Je recherche l'unité de ma famille politique, j'aime son histoire, tout ce qu'on y a fait, et quand on traverse des difficultés, on reste malgré tout unis. Valérie Pécresse ne supporte pas le débat et surtout pas d'être minoritaire. Valérie Pécresse ne veut pas le débat. Elle pourrait se présenter à la présidence des Républicains. Pourquoi ne le fait-elle pas ? Parce qu'elle n'a pas eu le courage de le faire et qu'elle est dans une posture de destruction.
Et la réponse laconique de l'intéressé n'a pas tardé. Valérie Pécresse, invitée du grand jury RTL-LCI Le Figaro.
Je crois que tous ceux qui ont écouté Nadine Morano ce matin ont peut-être un peu mieux compris pourquoi j'ai quitté Les Républicains. Je n'ai pas changé. Je défends les mêmes valeurs. Je fais les mêmes propositions. Et je suis toujours de droite. Et je suis toujours dans l'opposition à Emmanuel Macron. Donc, pardon de le dire, mais c'est pas moi qui ai changé. C'est les Républicains qui ont changé.
Nadine Morano n'avait pas que la présidente de la région Île-de-France dans son viseur ce matin. La députée européenne a réagi à la tribune des 72 élus de droite et du centre ayant annoncé leur soutien à Emmanuel Macron.
Vous appelez ça une fuite, j'appellerais ça plutôt une désertion, mais qui est faible au regard des effectifs du nombre des élus locaux dont la droite dispose. C'est un signal politique d'un moment où nous sommes dans une situation un peu compliquée, c'est vrai. Mais c'est là aussi que se révèlent les personnalités. Vous savez, moi je suis pas du genre à déserter ma famille. famille politique parce que nous traversons des difficultés. Là, j'entends, oh là là, c'est les élections européennes, on a l'impression qu'on a traversé le cataclysme. Oui, nous avons fait un très mauvais score, il faut en tirer les conséquences et voir comment nous allons nous projeter dans l'avenir.
Malgré son départ, pas question de déserter pour Valérie Pécresse qui a tenu à clarifier sa position sur RTL.
Je joue collectif, je joue avec le centre droit, je joue à côté des LR, mais je joue dans le cadre de l'initiative de Gérard Larcher. Je joue collectif, mais j'élargis la droite. Il vient d'avoir un appel de 72 maires. Eh bien, soyons très clairs, moi je quitte les LR, mais je reste de droite et je reste dans l'opposition.
Une chose est sûre, la tribune des 72 maires et élus locaux de droite et de centre qui ont exprimé leur soutien à Emmanuel Macron est très bien accueillie au sein de la majorité. Illustration ce matin sur Europe 1 avec Emmanuel Wargon, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique.
Après les élections européennes, on voit bien que le modèle gauche-droite est dépassé. Les deux grands partis traditionnels ont fait 8% et 6%. Donc avoir des élus qui disent « Oui, je pense que maintenant, l'important, c'est de traiter les questions posées par les Français, les problèmes des Français, les attentes des Français, dans une majorité de projets », c'est vraiment une bonne nouvelle.
Voilà pour la photo du jour. Pendant que la droite traditionnelle se disloque, la République En Marche engrange des soutiens de droite.
Alors, 72 maires prêts à rejoindre la République En Marche. Est-ce qu'il existe, Stewart Shaw, selon vous, un vrai risque d'hémorragie des élus Les Républicains vers le parti du chef de l'État?
Il y a un risque certain. Maintenant, je pense que c'est un enjeu énorme pour la droite, ces élections municipales. C'est un enjeu parce que je pense que l'échelle du territoire peut être une échelle aussi intéressante pour la droite, pour reconstruire un petit peu le projet politique. La droite a une expertise, une expérience du terrain, du local, ce que n'a pas forcément encore la majorité actuelle, qui n'a pas d'ancrage vraiment dans les territoires. Donc je pense qu'il y a une légitimité de la droite à porter une parole forte dans les territoires et à faire en sorte aussi de faire entendre leur expertise et leur expérience du local. On parlait tout à l'heure des clivages politiques. Je pense que c'est peut-être aussi dans ce cadre-là, à l'échelle des municipales, que peut se réinventer un petit peu, je dirais, les nouveaux termes du conflit. On en parlait tout à l'heure de la droite, vraiment à l'échelle municipale. Pour revenir sur la démission de Laurent Wauquiez et puis le retrait de Valérie Pécresse des Républicains. C'est vrai que c'est une lecture un peu complexe, parce que Mme Pécresse se retire alors qu'elle luttait finalement en interne contre Laurent Wauquiez, donc elle se retire une fois que celui-ci a démissionné, donc c'est un petit peu illisible. Au-delà de l'enjeu des personnalités, vraiment, je pense que c'est plutôt une forme de multiplication des chapelles, des possibles présidentiables aussi pour 2022. Je pense que c'est des enjeux d'ego et de personnalité avant tout.
Mais est-ce que les Républicains ont changé, comme l'affirme Valérie Pécresse?
Je ne peux pas encore le dire. Ce qui est sûr, c'est que j'écoutais Nadine Morano chez vos confrères. Elle disait vouloir retrouver les fondamentaux de la droite. Oui, peut-être, mais de quelle manière finalement? Par quelle vision? Par quelle formulation? On l'a vu, par exemple, sur les européennes, sur certains sujets. On a parlé de l'immigration, de l'identité, etc. La façon de formuler l'offre politique sur ces sujets-là, aujourd'hui, ne parle pas forcément à tout l'électorat de droite. Il y a vraiment une question de formulation de l'offre politique sur ces thématiques qui sont proches et chères à la droite. La seconde manière finalement de répondre serait de dire elle a changé, elle changera sûrement, elle a changé peut-être dans les jours qui vont venir et qui ont précédé, mais pour l'instant c'est un travail qui va, je pense, prendre beaucoup de temps.
Et que pensez alors des déclarations de Brice Hortefeux, qui est ancien ministre de M. Sarkozy, qui affirme que les Républicains ont besoin du retour de Nicolas Sarkozy?
Dans les moments de crise, on attend toujours l'homme providentiel. À défaut d'avoir des idées, on essaie d'avoir les hommes ou les femmes qu'il faut. Encore une fois, je pense que ça n'effacera pas ce travail de fond qui est nécessaire à la droite, encore une fois, de réinventer des termes et des clivages. Finalement, quelle est la raison d'être aujourd'hui de la droite entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui forment aujourd'hui un nouveau bipartisme en France? Donc il y a un espace à faire exister, à créer, et c'est à cette tâche-là qu'ils doivent s'atteler, il me semble.
Qui serait alors l'homme de la situation, selon vous?
Alors je ne prononcerai pas. Je ne prononcerai pas.
Vous voulez pas?
Je pense que
il y a un certain nombre de prétendants.
Il y a un certain nombre de prétendants. Ça sera encore une fois une décision en interne. On a vu. Enfin, je lisais certains articles qui disaient est-ce qu'on choisira une ligne plus Monsieur Jacob pour éviter de trancher, ou est-ce qu'on ira plutôt sur Bruno Retailleau pour avoir une ligne très très franche. Encore une fois, ça dépendra de l'offre politique qui sera mise sur la table et qui sera proposée et mise en avant par la droite dans les années qui viennent.
Donc les trois options finalement, c'est se rapprocher du parti au pouvoir, faire alliance avec le Rassemblement National ou conserver une parfaite autonomie. Est-ce qu'on a des indications tout de même de laquelle de ces options va finalement prévaloir?
Il me semble que un socle très important d'élus de droite souhaite une réinvention du parti de droite qu'on entend aujourd'hui comme les Républicains. Ce travail-là, encore une fois, je disais, il va prendre beaucoup de temps. Ce qui est, il me semble peut-être décisif, ça va être plutôt la déclaration de politique générale du Premier ministre mercredi. On va voir aussi comment se comportent les élus de droite. Donc en fonction de ça, d'ailleurs je crois que c'est même le jour du bureau politique à droite. Donc je pense que après, à l'issue de toutes ces réunions-là, il y aura des dynamiques qu'il faudra observer.
François Bernard.
Dimanche politique en compagnie de Stewart Shaw, qui est consultant au cabinet d'études et de sondages Via Voice, et Namori Dosso, qui a sélectionné pour nous les déclarations de ce week-end. Namori.
La dispersion de la gauche est au cœur des interrogations, notamment après l'échec de la France insoumise aux européennes. Il faut rassembler toutes les sensibilités pour peser. C'est en somme le message d'Olivier Besancenot, membre du nouveau parti anticapitaliste sur BFM.
C'est pas que ça m'effraie, je le prends comme une réalité politique. Moi, faut pas compter sur moi pour faire le énième sniper isolé qui va taper dans ce camp-là. Je ferai pas non plus le médiateur parce que c'est les débats internes de ce camp-là. Je m'adresse à tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre en disant, écoutez, soit on continue à se bouffer entre nous, soit à un moment donné, on prend le sens et la conscience des réalités et avec la méthode que je préconisais, il peut y en avoir d'autres. Le problème, c'est pas la relève. Là, le problème, c'est la modalité d'action entre nous. C'est de se retrouver collectivement, de jouer collectif.
Lors du scrutin européen, le vote ouvrier a bénéficié au Rassemblement National. Dure réalité pour Olivier Besancenot, qui analyse à sa façon ce détournement du vote ouvrier en faveur du RN.
Là, on n'a abandonné personne. Nous, on est dans le combat aux côtés de la classe ouvrière, du monde du travail au sens général. Comment je le vis, j'ai vécu des moments plus heureux, mais faut pas compter sur moi pour participer au jérémiades ambiantes. Voilà, faut comprendre ce qui vient de se passer. La seule force de ce camp-là, c'est la faiblesse du mouvement ouvrier, et notamment de la gauche et de cet échec coupable qui a été celui de la gauche radicale.
L'union de la gauche, c'est aussi la préoccupation majeure de Raphaël Glucksmann, eurodéputé cofondateur de Place Publique. Sur France 3, il en a appelé à l'eurodéputé écologique Yannick Jadot, dont la liste est arrivée troisième lors des européennes.
En 2022, s'il n'y a pas un seul candidat sur cet espace politique social et écolo, eh bien, je peux vous le signer, tout le monde peut le signer, ce sera Emmanuel Macron contre Marine Le Pen une fois de plus. Je pense que les écolos ont une responsabilité immense et Yannick Jadot en premier lieu, il doit porter ce discours de rassemblement aujourd'hui. Moi, ce que je vous explique, c'est que s'il y a deux ou trois candidatures en 2022, c'est mort.
Question Stewart Shaw, la gauche peut-elle s'unir compte tenu du champ de ruines dans lequel elle se trouve actuellement?
Je pense que l'enjeu est similaire à la droite. Effectivement, on est sur un champ de ruines. Peut-être que l'écologie finalement est le vecteur qui fera renaître de ses cendres la gauche. On parlait tout à l'heure de redéfinition des termes du conflit. Vous savez, les identités politiques, comme toutes les identités, elles sont dynamiques et il faut à chaque fois les redéfinir, les remettre au goût du jour. Peut-être que l'écologie est un nouveau terme qui va permettre à la gauche effectivement de projeter un nouveau projet de société autour d'une question. Celle de l'écologie. Il y a une écologie de droite, il y aura une écologie de gauche, et c'est peut-être sur cette question-là, effectivement, qui pourrait avoir des éléments un peu fédérateurs, et une conception peut-être fédératrice de ce nouvel enjeu.
Je reviens à la déclaration d'Olivier Besancenot, qui veut jouer collectif. Ça n'a jamais véritablement été une marque de fabrique chez lui. C'est nouveau, ça change un petit peu la donne ou quoi?
Oui, ça change la donne d'une certaine manière, puisque je crois qu'aujourd'hui la gauche a pris conscience, parce que vous savez le démantèlement entre guillemets de la gauche, elle est peut-être un peu plus plus passée que celle de la droite qui est actuelle. Depuis le renoncement de François Hollande, on sait qu'il y a un travail à faire à gauche, il y a une prise de conscience, je pense, énorme qui a été fait aussi à gauche, et je crois que ces élections européennes a permis de montrer une dynamique en faveur de l'écologie comme un nouveau terme peut-être aussi à gauche, qui fait sens, on parlait tout à l'heure de sens dans l'électorat, mais qui fait sens peut-être beaucoup plus que ce qu'on a pu penser du revenu universel pendant les élections présidentielles. Donc effectivement, il y a une nouvelle donne, c'est à la fois la dynamique Europe Écologie des Verts, à prendre avec prudence, puisque on sait aussi que Europe Écologie des Verts a toujours été plutôt en bonne position aux européennes, sans forcément pouvoir concrétiser d'un point de vue électoral sur les échéances d'après. Donc voilà, il faudra faire attention, mais je pense effectivement qu'il y a une prise de conscience des partis
partie de la gauche de l'échiquier politique à faire collectif.
En tout cas, l'unité se fera sans lutte ouvrière. Sa porte-parole, Nathalie Arthaud, l'a confirmé ce dimanche lors de la fête annuelle du parti. Qu'est-ce que pèse l'extrême gauche aujourd'hui dans le rapport de force à gauche, justement ?
Il pèse dans l'absence qu'il y a, je dirais, sur la gauche modérée. Aujourd'hui, Raphaël Glucksmann, jusqu'à Yannick Jadot, finalement, ont une dynamique plutôt très, très timide. Donc, effectivement, à défaut d'avoir des projets qui font sens, on est sur des projets plutôt qui sont, je dirais, contestataires. Et je crois qu'il est là aussi, le problème de la gauche, c'est d'avoir manqué, à un moment donné, comme la droite d'ailleurs, de formuler un projet, entre guillemets, modéré, et qui puisse effectivement fédérer une gauche plurielle, en fait, si on peut parler en ces termes-là. Ce que la droite va essayer de faire aussi, c'est-à-dire qu'il y a une polarité à gauche qui est à la fois une gauche très modérée qui serait Macron compatible et une gauche plutôt
contestataire
exactement et qui serait beaucoup plus à même de voter aujourd'hui LFI ou pourquoi pas lutte ouvrière. Donc voilà, je pense que c'est un équilibre à trouver et encore une fois peut-être que l'écologie comme réinvention d'une thématique de gauche fédératrice pourra faire le travail.
En cas de candidature multiple en 2022, disait Raphaël Glucksmann, ce sera Emmanuel Macron contre Marine Le Pen une fois de plus. Vous pensez que c'est l'argument qui va prévaloir en amont de la prochaine présidentielle, par exemple ?
En tout cas, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le bipartisme Macron-Le Pen est durablement installé. Petit rappel des chiffres. Aujourd'hui, les européennes, Macron fait 22%, il fait à peu près, il fait 24 au présidentiel, donc il a un socle électoral qui est quand même assez solide. Marine Le Pen arrive encore en tête, son élection à un tour, évidemment. Donc, effectivement, il y a un bipartisme qui s'installe et je crois que, autant pour la droite que pour la gauche, il y a un espace à créer qui va prendre beaucoup de temps. On va avoir les municipales. Donc, je pense que l'enjeu est énorme, mais effectivement, le bipartisme est très très bien installé et ça sera très compliqué d'exister et de démontrer une raison d'être à travers ce duel-là.
Et comme toute la gauche semble convertie à l'écologie, comme vous le disiez tout à l'heure, ce sera manifestement le socle commun d'une nouvelle union. On s'est intéressé à la gauche, à la droite. Voyons maintenant, Namori Dosso, ce qui anime le parti du gouvernement, qu'on dit ses représentants aujourd'hui.
Eh bien, s'il est un sujet qui s'est imposé dans le paysage politique, c'est bien l'écologie. Chaque parti tente d'être le plus écolo. Alors quand Yannick Jadot estime qu'Emmanuel Macron protège le lobby pétrolier nucléaire ou encore celui des pesticides, Gilles Legendre, le parti du groupe LR, le groupe LREM à l'Assemblée, s'insurge.
Je ne peux pas laisser Yannick Jadot dire ça. Ça, c'est l'écologie à la papa. Ça, c'est l'écologie qui recherche. C'est l'écologie qui recherche avant tout les trophées et les symboles. Nous avons une vision très différente de l'écologie. Nous considérons qu'elle doit entraîner une transformation complète du modèle économique, politique et social du pays. C'est une approche globale.
Gilles Legendre, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale sur France 3 cet après-midi.
Qui dénonce donc l'écologie à la papa de Yannick Jadot et qui assure que pour la majorité, l'accélération de la transition écologique est quelque chose de fondamental. Est-ce qu'on peut vraiment y croire, Stewart Shaw?
Écoutez, je pense que effectivement, on rentre peut-être dans un acte 2, entre guillemets, du quinquennat, qui est aussi décisif pour Emmanuel Macron. Je reviens peut-être sur un élément de conjoncture dans l'opinion. Via Voice réalise tous les deux mois avec Le Figaro, BFM Business, un baromètre avec HEC Paris sur l'état d'esprit des Français. Il y a un fait marquant qui mérite d'être relevé, c'est qu'il y a un véritable regain d'optimisme dans l'opinion publique concernant les perspectives économiques. Sur plusieurs indicateurs, les Français ont plutôt de plus en plus confiance en la France et en l'avenir. Donc ça, c'est quelque chose qui porte aussi le parti de la majorité. Ensuite, il y a des indicateurs plus personnels qui nuancent un petit peu ce propos, où effectivement, on a toujours une divergence de perception entre les cadres, les décideurs et le grand public. Donc c'est des choses à prendre avec précaution. Mais effectivement, on a déjà une conjoncture de l'opinion publique qui est quand même assez favorable aujourd'hui à la majorité et au président de la République.
Allez, on n'en dira pas plus ce soir. C'est la fin de cette émission. Merci de vos analyses. Stewart Shaw, vous êtes, je le rappelle, consultant au cabinet d'études et de sondages Via Voice. Merci à vous, Namori Dosso. Merci à Donatien Cahu qui réalise cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet rfi.fr sous l'onglet podcast. Merci de votre attention. Bonsoir à tous et à dimanche prochain.